ماشي رجولة.
Les nouvelles masculinités, au sens large, sont respectueuses des femmes, de leurs droits imprescriptibles, mais aussi de certains hommes qui sont trop souvent décrits comme des sous-hommes, des gens qui sont méprisables, dissidents, illégitimes, etc. Vous, vous portez la moustache, la barbe. Alors, je révèle peut-être un grand secret, mais voilà, Sofiane porte la moustache et la barbe.
Bonjour Yvan Jablanka.
Bonjour.
Ravi de vous avoir avec moi dans le podcast Machirojula. Vous vous intéressez aux questions des masculinités, des jeunes, des mères célibataires. Je vais commencer par vous poser une première question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour vous ?
Merci pour cette question et puis merci aussi pour votre invitation. Je suis très heureux et honoré d'être l'invité de Machirojula. Je trouve que c'est vraiment un podcast formidable et j'ajouterais aussi nécessaire. Voilà, donc merci pour ce que vous faites et puis et bravo. Qu'est-ce qu'un homme ? Je dirais que un homme, ou plus exactement un être humain de sexe masculin, c'est un mélange de sexe et de genre. Alors, du point de vue du sexe, et j'entends cela au sens de biologique, du point de vue du sexe et du biologique, il y a quelque chose qui relève d'une expérience propre aux hommes. Ça va être, par exemple, avoir du poil au menton. Vous, vous portez la moustache, la barbe. Alors, je révèle peut-être un grand secret, mais voilà, Sofiane porte la moustache et la barbe. Moi, je me rase régulièrement. Bon, on a un pénis dont on peut faire plusieurs usages. Et puis, comme chacun sait, en moyenne, je dis bien en moyenne, les hommes sont un peu plus grands et un peu plus musclés que les femmes, c'est une moyenne. Alors ça renvoie plutôt à une expérience biologique. Et puis être un homme, c'est le deuxième moment de ma définition, c'est aussi avoir une socialisation masculine, une socialisation donc de genre, et ça consiste à être soumis à un certain nombre d'injonctions, de culture, d'apprentissage qui relèvent du masculin. Alors, par exemple, selon certains pays, en fonction de certaines cultures, de certaines époques ou de certains pays, les hommes vont être associés, par exemple, aux armes, aux chevaux, aux voitures, à l'alcool. Alors évidemment, tout ça, c'est en moyenne et puis ça dépend des périodes, mais ça, c'est une culture de genre qui est plutôt codée de manière masculine.
Et dans vos travaux, vous abordez l'universalité de la domination masculine. Comment se construit la domination masculine dans le monde ?
Alors, la question que je me suis posée, c'est à partir de quand on peut dire que les sociétés humaines sont dominées par le principe masculin ? Et ça, c'est une question très complexe parce qu'il faut remonter jusqu'au paléolithique supérieur, donc il y a 40 000, 50 000 ans, et ce sont des sociétés sans écriture pour lesquelles on a très peu de témoignages. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est difficile de conclure. Voilà un exemple, dans la grotte de Lascaux, dans le sud de la France, qui a été décorée il y a à peu près 18 000 ans, il y a une association, il y a une scène célèbre où un homme est percuté et blessé par un énorme animal, sans doute un rhinocéros, qui est lui-même blessé parce qu'on voit ses entrailles qui sont en train de s'écouler. Et on sait que ce rhinocéros est en train de percuter cet homme, on le sait parce qu'on voit son pénis. Alors là, on a, pour une époque très reculée, 18 000, 20 000 ans, une association entre le masculin et la chasse et la violence. Et malheureusement, je ne suis pas capable d'en dire davantage. Ce qui est sûr, c'est que à partir du néolithique, donc il y a à peu près 6 000, 7 000, 8 000 ans selon les régions, De plus en plus, les sociétés humaines sont dominées par le masculin et aussi les hommes. Et ça se voit, par exemple, parce que les hommes, dans le cadre des sociétés sédentaires, agricoles ou d'élevage, commencent à avoir droits de propriété et des monopoles sur la terre, la culture, le cheptel. Et enfin, à partir de ce qu'on appelle la fin du néolithique et le début de la période historique, les grandes inventions humaines sont presque aussitôt dominées par le masculin. Les premières dynasties sont dirigées par des hommes, ça veut dire que l'État est presque immédiatement masculin. Les armes de guerre, à partir du deuxième millénaire avant notre ère, se voient appropriées par des hommes qui sont enterrés avec leurs armes. Et puis aussi les premiers systèmes d'écriture, 3000 ans avant notre ère, valorisent le masculin, et on le voit parce que l'individu masculin est représenté avec son corps, sa tête, alors que l'individu féminin est représenté par son sexe, c'est-à-dire son vagin. Et on voit bien que là, les hommes sont des individus, alors que les femmes sont représentées comme étant des fonctions, des choses qui doivent servir, soit pour le plaisir, soit pour la procréation, soit pour le travail à la maison.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation entre la virilité, entre l'expression de la masculinité et l'histoire de la violence dans le monde ?
C'est très compliqué de savoir à partir de quand nos sociétés deviennent comme elles le sont aujourd'hui, c'est-à-dire dominées par le masculin et par les hommes. J'ai essayé de remonter les millénaires et de comprendre comment, à partir du paléolithique, il y a 30 000, 40 000 ans, le masculin devenait peu à peu un principe dominant. Alors, il y a peut-être le fait que les femmes dans l'espèce humaine font les enfants et donc ont une espèce de dépense maternelle qui les place dans une situation d'infériorité physique. Mais après tout, on pourrait dire aussi que c'est très fort, très courageux de donner la vie, notamment à travers l'accouchement. Donc ça, c'est pas vraiment une réponse probante. Ce qui est sûr, c'est que à partir de la fin du néolithique, donc en gros il y a 5000, 6000, 7000 ans en fonction des régions du monde, à partir de la fin du néolithique, on entre dans des sociétés qui sont véritablement dominées par le masculin, et on le voit dans le cadre des sociétés agraires, sédentaires, dominées par l'agriculture ou l'élevage. Parce que ce sont les hommes qui maîtrisent les moyens de production, qui possèdent les cultures, les cheptels, et d'ailleurs même dans certains cas, dans le cheptel, on va mettre des femmes, comme si c'était des animaux et comme si on pouvait posséder des femmes. Il y a les premiers harems, c'est de 2000 ans avant notre ère. Donc c'est quelque chose qui arrive très tôt dans l'histoire humaine. Et puis à partir du moment où l'espèce humaine entre dans ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire à peu près 3000 ans avant notre ère, on s'aperçoit que les principaux piliers de nos sociétés sont dominés par le masculin. Alors, je vais donner quelques exemples. Les premières dynasties en Mésopotamie ou en Égypte sont des dynasties dominées par des hommes. Les pharaons sont très très largement des hommes. On le voit aussi dans les systèmes d'écriture. Dès lors que l'espèce humaine commence à maîtriser l'écriture à peu près en 3000 avant notre ère, on s'aperçoit que il y a des symboles pour définir le masculin et le féminin. Le masculin est noble et le féminin s'est réduit à la sexualité, au sexe ou aux organes. Enfin, dernier exemple, les armes de guerre. Quand les premières armes de guerre, par exemple les épées, apparaissent à peu près au deuxième millénaire avant notre ère, on voit que ce sont immédiatement des hommes qui monopolisent ces armes de guerre, notamment parce qu'ils se font enterrer avec ce qui est sans doute la chose la plus importante à leurs yeux à l'époque, leur arme. Et donc on voit bien que peu à peu, le masculin domine les principaux piliers de nos sociétés, jusqu'au principal, la religion, parce que avec les principaux monothéismes, chronologiquement le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans ces trois monothéismes, c'est le masculin qui domine dès lors que la relation entre les humains et Dieu est considérée en fait comme un dialogue entre les hommes au sens masculin et le Tout-Puissant. Et d'une certaine manière, c'était hier. Et en fait, on est encore dans ces sociétés-là.
Si on parle du côté biologique de la construction de cette violence, comment pourrait-il être possible de déconstruire justement ?
En fait, la réponse biologique ne me paraît pas satisfaisante. Parce qu'il suffit d'interroger n'importe qui aujourd'hui pour dire est-ce que les hommes sont violents ? On voit bien que cette réponse... On voit bien que cette question est absurde. Il y a des millions d'hommes autour de nous qui sont des hommes tout à fait doux, des super papas, des super frères, des super conjoints, etc., etc. Donc on voit bien que peut-être qu'en moyenne, globalement et à l'échelle historique, ce sont plutôt les hommes qui ont monopolisé l'agressivité, la violence, les armes de guerre. Enfin, on voit bien qu'autour de nous, le monde est peuplé d'hommes gentils, sympas, non violents. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui est important, c'est de désapprendre les injonctions de genre et effectivement d'inventer une nouvelle éducation ou une autre manière d'éduquer les petits garçons qui consisterait à dire qu'un homme ou un garçon peuvent avoir une part de douceur, de fragilité, de vulnérabilité, d'humour aussi, et de remise en cause de soi-même. Donc en ce sens, oui, être un homme, c'est pas nécessairement être violent ou agressif. Être un homme, ça peut être aussi quelqu'un de doux, de tendre, de compréhensif. Alors on voit bien que tous ces adjectifs que je cite sont codés du côté du genre féminin. Bon, effectivement, traditionnellement, la douceur, l'amour, la tendresse sont codés du côté de la culture de genre féminine. Mais pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on recommande aux hommes d'être davantage féminins et aux femmes davantage masculines. Moi, je pense que le genre masculin et le genre féminin sont en fait des cultures. Et qu'il y ait un mélange des cultures et que chacun s'approprie la culture de l'autre pour faire des mélanges, et enrichisse à la fin l'expérience humaine, moi, je trouve ça très positif.
Dans votre dernier livre, Un garçon comme vous et moi, vous abordez l'intime, vous abordez votre enfance. Comment avez-vous vécu votre enfance en tant qu'homme dans la société ?
Alors, ce livre, Un garçon comme vous et moi, s'interroge sur mon enfance, mais plus exactement sur mon enfance croisée avec le genre masculin. Et ce croisement entre l'enfance et le genre masculin, je l'ai appelé ma garçonnité. Donc, j'ai essayé de faire une histoire ou une socio-histoire de ma garçonnité. Comme je suis né en 1973, en gros, c'est une socio-histoire de ma garçonnité dans les années 1980-1990, à la fin du XXe siècle. Et d'une certaine manière, c'est intéressant et c'est important de le préciser parce que moi, je suis d'une autre génération. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. On n'est pas de la même génération. Et les choses changent du point de vue de la garçonnité et de la masculinité, sans compter le fait que moi j'ai grandi à Paris en France, donc là aussi c'est relativement différent. Alors j'ai essayé dans ce livre Un garçon comme vous et moi de m'interroger sur la culture de genre et la manière dont elle est proposée et parfois même imposée aux garçons. Alors j'ai essayé de mettre au jour un certain nombre d'institutions qui viennent construire la garçonnité. Alors ça peut être la famille, parce que par exemple mon père me disait beaucoup « pleure pas, t'as pas mal, t'es pas en sucre », enfin toutes les injonctions à la virilité qu'on transmet souvent aux petits garçons. Donc ça, c'est la garçonnité telle qu'elle a été forgée dans ma famille. Je suis allé aussi à l'école et j'étais dans un milieu assez concurrentiel à l'école. Et ça, c'est aussi une manière d'inciter les garçons à une forme de concurrence. Ça, c'est très garçon, justement. Et puis, j'ai fait beaucoup de sport. Notamment, j'ai passionnément joué au foot. Et ça, le club de sport, c'est aussi une manière de socialiser les garçons dans une forme de compétition, de force physique, parfois même de rivalité. Alors ça, c'est ce que je dirais, c'est ce que j'appellerais les structures de ma garçonnité. Mais rapidement, je me suis senti un petit peu à l'étroit dans cette garçonnité, parce qu'il y avait un certain nombre d'injonctions qui m'étaient proposées ou imposées et qui ne me plaisaient pas, dans lesquelles je ne me reconnaissais pas. Et puis, assez rapidement, j'ai eu des amis garçons et aussi filles. Hein. Mais des amis filles, pas des filles que j'allais draguer, ou vraiment une amitié de garçons et de filles. Et ça, tout de suite, ça vous décale un petit peu, parce que la sociabilité des filles est relativement différente, en tout cas pour ma génération, ce qui fait que moi, j'aimais bien discuter, faire des confidences, s'échanger des petits secrets. Alors ça, c'est très codé, justement, féminin. Alors, d'une certaine manière, j'étais un garçon-fille. Alors, il y a peut-être une idée qui va venir à l'esprit de nos auditrices et auditeurs au moment où je parle, c'est alors la sexualité dans tout ça. Parce que dès lors qu'on dit qu'un garçon est un petit peu une fille en même temps, en tout cas dans sa sociabilité ou dans son genre, très rapidement on se demande quelle est sa sexualité. Alors bon, je n'avais pas vraiment de sexualité quand j'étais adolescent, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que mes copains, à partir d'un certain moment, ont pensé que j'étais gay. Homosexuel, pour le dire autrement. Et par exemple, c'est une anecdote que je raconte dans mon livre, quand j'étais en terminale, donc juste avant le bac, en France, à peu près 17 ans, il y avait des garçons qui s'étaient moqués de moi et qui croyaient m'humilier ou me dénigrer en affirmant que j'étais homosexuel, que j'étais gay. Bon, il se trouve que je ne l'étais pas, mais enfin, ça n'a aucune importance. Ce qui était intéressant, c'est que comme j'étais en décalage avec ma culture de genre, comme j'étais beaucoup avec les filles, comme j'aimais la poésie, l'opéra, comme j'aimais écrire, j'étais déjà dans des choix littéraires en quelque sorte, bien pour toutes ces raisons-là, j'étais perçu comme un homosexuel. Et en fait, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que je me suis dit, quel est le... Comment un garçon peut-il s'émanciper ? Si un garçon veut sortir de la culture de genre ultra viril ou du modèle de virilité obligatoire, en fait, tout de suite, on va imaginer qu'il est gay et dans cette culture majoritaire, généralement, ça veut dire méprisable. Et ça m'a fait réfléchir très tôt. Je devais avoir 17 ans et ça fait partie de la construction de ma garçonnité.
Aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de changer. Dans le monde.
C'est en train de changer parce que la génération ou les générations qui viennent après moi, les garçons ont une espèce de liberté totale dans leur genre, qui ne veut pas dire dans leur sexualité. Par ailleurs aussi, ils ont une forme de liberté parce que s'ils veulent faire telle ou telle expérience, ils le peuvent. Mais donc, dans la présentation de soi, ou dans le genre, ou dans la sexualité, ou dans la manière d'être, je pense qu'il y a une plus grande liberté aujourd'hui que hier. Et par exemple, quand moi je réfléchis à la manière dont je pouvais me penser moi-même dans les années 1980 ou 90, il y avait des mots qui n'existaient pas. Le mot genre n'existait pas. Le mot homosexuel n'existait pas. Alors si, il existait, mais sous la forme d'injures que j'ai pas envie de répéter à ce micro. Mais sinon, c'était pas une question qu'on posait. Alors moi, il se trouve que je suis devenu hétéro. Mais ça montre bien que il y a une espèce d'appauvrissement à travers le vocabulaire, à travers la manière de penser. Et puis, il y a bien sûr aussi la question de la législation. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le code pénal marocain n'est pas le même que le code pénal français sur ces questions-là. Donc, d'une certaine manière, les choses changent, mais trop lentement, je crois.
Mais en même temps, les nouvelles masculinités sont en train de se construire malgré toutes ces lois. Le digital, les réseaux sociaux, les podcasts, l'ouverture au monde fait que les masculinités sont en train de changer.
C'est pour ça que vous faites un travail formidable comme... Voilà, mais oui, je pense que vous avez raison, ça change en France, au Maroc et dans beaucoup d'autres pays, et moi quand je discute avec des hommes plus jeunes que moi qui ont 30 ans, 25 ans, voilà, je sens qu'il y a une réflexion que moi je n'avais pas à leur âge. Alors aujourd'hui je l'ai, et d'une certaine manière je l'ai peut-être un peu trop tard, parce que bon, voilà, moi, ma vie, ça y est, je suis père de famille, j'ai 3 filles, je suis marié, bon. Mais j'aurais bien aimé, sans doute, dans ces années si importantes, entre 15 ans, 25 ans, j'aurais bien aimé réfléchir à cela sans sentir la pression du groupe de pères sous la forme de la moquerie, de la dérision, ou parfois de l'insulte que, par chance, je n'ai pas subi.
Vous ne croyez pas à la guerre des genres, mais vous croyez à une guerre à l'intérieur de la masculinité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, on dit souvent qu'aujourd'hui, les féministes en veulent aux hommes et qu'il y aurait une guerre des sexes. Bon, moi, j'y crois pas, parce que d'abord, il y a beaucoup de femmes féministes qui sont mariées avec des hommes et qui savent très bien que c'est aussi bien de se mélanger entre genres, entre sexes, et tout le monde le sait très bien. C'est même un plaisir de la vie de se rencontrer, de se séduire, de coucher ensemble, etc. etc. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une guerre des sexes. En revanche, en tant qu'historien, j'ai essayé de mettre au jour et d'étudier une guerre à l'intérieur du masculin. Et là, oui, je pense qu'il y a une guerre de certains hommes contre d'autres hommes. Par exemple, l'homophobie, c'est une bonne définition de ce que peut devenir cette guerre à l'intérieur du masculin. Quand on regarde l'homophobie, généralement, ce sont des hommes avec une certaine conception de la masculinité et de la virilité qui vont s'en prendre verbalement, symboliquement et parfois bien sûr physiquement à d'autres hommes qui sont considérés comme indignes du genre masculin. Bon, ça c'est la longue histoire de l'homophobie. Mais il y a aussi d'autres aspects. Par exemple, quelque chose de moins brutal peut-être, mais quand on regarde un de ces grands génies universels qu'est Chaplin, Charlot comme on le dit en français, quand on regarde un film de Charlot, on voit que la guerre à l'intérieur du masculin est partout. Parce que c'est qui Charlot ? Charlot, c'est un va-nu-pied, une espèce de vagabond, un peu pauvre, un peu maladroit, un peu ridicule, qui n'arrive pas trop à draguer, qui n'arrive pas trop à trouver sa place dans la société, et qui ne cesse de se heurter à des masculinités de domination. Le soldat, le policier, le gendarme, le Richard, le patron, le gardien de musée ou de grand magasin, etc., etc. Donc on voit bien, alors là ce ne sont pas des guerres sanglantes ni tragiques, mais on voit bien qu'il y a des tensions à l'intérieur même de la culture masculine. Et c'est pour ça que dans mon livre que vous citiez tout à l'heure, « Des hommes justes », j'ai essayé de proposer cette utopie, à mon avis ce sera pour le 21e siècle, peut-être même le 22e siècle, cette utopie qui consisterait à inventer des masculinités nouvelles qui seraient respectueuses des droits des femmes, mais aussi des droits de tous les hommes. Et je crois que c'est très important de dire qu'un homme juste, les nouvelles masculinités au sens large, sont respectueuses des femmes, de leurs droits imprescriptibles, mais aussi de certains hommes qui sont trop souvent décrits comme des sous-hommes, des gens qui sont méprisables, dissidents, illégitimes, etc.
Il y a aussi la question du féminisme, peut-être. Est-ce qu'un homme pourrait être un homme féministe ou pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, dans mon livre « Des hommes justes », il y a un chapitre entier qui est consacré aux féministes masculins. Parce que quand on dit aujourd'hui « féministe », ça s'entend presque immédiatement au féminin, comme si c'était synonyme de femme. Alors, bien entendu, depuis 2 siècles, l'écrasante majorité des féministes sont des femmes. Mais il y a eu, au cours de l'histoire, et en gros depuis la fin du XVIIIe siècle, notamment en France et en Angleterre, des intellectuels, des penseurs, des philosophes, des médecins, des juristes féministes, et pourtant des hommes. Donc, un homme peut parfaitement être féministe. D'ailleurs, c'est tout à fait normal quand on y pense, parce que le féminisme, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans votre biologie. Le féminisme, c'est un combat
contre les injustices.
Contre les injustices, vous avez raison, contre les discriminations, contre les violences, et c'est un combat universel pour les droits humains. Si je dis en français les droits de l'homme, c'est très ambigu à cause de ce mot « homme ». Mais si je dis les droits humains, tout le monde va comprendre. Donc, le féminisme, c'est la défense des droits humains, en l'occurrence au profit des femmes, mais on voit bien qu'un homme peut parfaitement être féministe. Alors, aujourd'hui, on dit que les hommes sont plutôt des alliés. Bon, moi, ça ne me dérange pas qu'on dise de moi que je suis un allié, mais je pense que je suis aussi féministe. Alors, la vraie question qu'on doit se poser, c'est aussi à partir de quand un homme peut devenir féministe. Moi, je n'ai pas toujours été féministe, c'est ça la vérité. C'est que pendant longtemps, ça ne m'intéressait pas. J'étais comme des millions d'hommes. Je m'en foutais un peu, c'était pas mon problème, c'était pas mon sujet, c'était pas mon combat, c'était pas ma vie. Et puis peu à peu, à la suite de cette adolescence un petit peu compliquée dans le masculin que je viens d'évoquer, à la suite de lectures, et puis aussi par cette immense chance que j'ai eue d'avoir 3 filles, qui est sans doute un des grands événements de ma vie, c'est d'avoir été le père de 3 filles, pour toutes ces raisons, bah oui, j'ai changé, j'ai réfléchi, et puis, de ce point de vue-là, je me sens infiniment plus concerné par le féminisme en général et MeToo en particulier qu'il y a 30 ans.
Et puis, il y a aussi cette question de la transmission du patriarcat faite par les femmes, plus particulièrement les mamans. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est un sujet qui est compliqué, qui est douloureux, parce que en gros, ça revient à dire que certaines femmes pourraient transmettre des valeurs patriarcales. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que certaines femmes sont des victimes inconscientes ou ignorantes des valeurs patriarcales, et que pour trouver leur place dans cette société qui est si cruelle avec les femmes, pour trouver leur place et être acceptées, il faut parfois qu'elles véhiculent un certain nombre de préjugés patriarcaux. Donc ça va être par exemple telle mère de famille qui est très très fière d'avoir des garçons ou qui favorise le fils par rapport à la fille, ou qui va dire au garçon bon ben toi tu peux sortir, tu t'es libre mon fils, et la fille elle va la serrer à la maison et la fille elle aura pas le droit de sortir. Et hélas, tout le monde sait très bien de quoi je parle, parce que c'est quelque chose qui existe dans tous les pays. Et voilà, alors ça ne veut pas dire que la mère est coupable, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire que dans le cadre d'une société patriarcale, ces valeurs intoxiquent aussi bien des hommes que des femmes. Donc je crois que le patriarcat nous empoisonne tous, aussi bien les hommes que les femmes.
Quand j'ai interviewé l'écrivaine Leila Slimani, elle m'avait dit que de la même manière qu'une femme puissante est une femme capable de déplaire et de décevoir, un homme positif est un homme qui est capable de déplaire et de décevoir des hommes comme lui. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition ?
Je m'y retrouve, et j'ajouterais que il est important en tant qu'homme de savoir briser la connivence masculine. Je ne dis pas la solidarité, parce que la solidarité, c'est quelque chose de positif. Je dis plutôt la connivence. Et la connivence masculine, ça va être par exemple des hommes en groupe qui vont se moquer d'une femme, qui vont emmerder une femme dans la rue, qui vont harceler une femme, voire pire. Ou alors les propos de vestiaire, je le sais très bien puisque j'ai fait beaucoup de foot dans ma jeunesse, les propos de vestiaire, c'est des propos qui deviennent rapidement sexistes, misogynes, homophobe. Eh ben, je crois que être un homme, c'est aussi être capable de dire « Hey les gars, c'est pas drôle en fait, ça m'amuse pas. Alors, j'ai beau être votre pote, on aime bien jouer au foot ensemble, je vous aime beaucoup, mais cette blague, ben, c'est pas drôle. » Et ça, c'est une manière, je crois, de briser la connivence masculine dès lors que des valeurs de dignité sont bafouées. Moi, j'ai aucun problème avec le genre masculin, puisque moi-même, je suis un homme et j'ai une grosse montre en métal, j'aime bien les belles voitures. Donc, de ce point de vue-là, je suis comme beaucoup, comme des millions d'hommes dans le monde. Donc, la culture masculine ou les cultures masculines ne me posent aucun problème. Ce qui me pose problème, c'est quand la masculinité se colore de violence physique, sexuelle, verbale, ou philosophique. Donc ça va être par exemple certains hommes qui se définissent par leur mépris des femmes ou des homosexuels, ou selon les pays, des juifs, des arabes, des noirs, etc. Voilà, là je crois qu'il faut dire les choses clairement.
Vous abordez des figures masculines qui ont lutté pour les droits des femmes, Taha Haddad en Tunisie que vous citez dans le livre, Mohamed Abdo en Égypte. Selon vous, pourquoi ce combat de ces figures masculines à côté des féministes n'a pas abouti à détruire le patriarcat ?
Sans doute parce qu'ils étaient ultra, ultra minoritaires. Déjà, des femmes féministes sont ultra, ultra minoritaires dans toutes les sociétés. Mais alors, quand vous parlez des hommes, alors là, on les compte sur les doigts de deux mains. Notamment, moi, dans ce chapitre où j'évoque le combat des hommes féministes, alors vous les avez cités les principaux, mais il y en a d'autres en France, par exemple Condorcet ou Léon Richer, d'autres hommes féministes, et puis il y en a encore d'autres en Angleterre ou en Chine, on les compte sur les doigts de peut-être 2 ou 3 mains. Et ça, c'est pour 2 siècles et une quinzaine de pays. Autant vous dire que c'était des ovnis qui ont été moqués, tournés en dérision par les autres hommes. Donc voilà, d'une certaine manière, je pense que ces valeurs d'égalité, ces valeurs féministes, ces valeurs de dignité et de respect des droits humains, ben, malheureusement, ils sont globalement, ils sont pas assez défendus, tout simplement. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de payer au prix fort dans des sociétés comme les nôtres. Et de ce point de vue-là, la France ne fait pas exception. Il faut pas croire que il y aurait l'Europe de l'Ouest et d'autres pays. Non, je crois pas. Je pense que en Europe de l'Ouest ou dans d'autres pays, il y a des problèmes qui sont gravissimes, des problèmes de violence physique, sexuelle. Et c'est aussi pour ça que MeToo a eu un tel écho dans le monde entier.
Et est-ce qu'au moins la présence de ces figures masculines a réussi à transformer les masculinités, à créer les nouvelles masculinités aujourd'hui ?
De ce point de vue-là, je suis un petit peu pessimiste. Je ne pense pas que ces hommes-là, de Condorcet à Taha Haddad, je ne pense pas que ces hommes-là aient changé grand-chose. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'action des femmes féministes. Et ça, depuis... voilà, depuis Olympe de Gouges en France, depuis Mary Wollstonecraft en Angleterre, donc en gros depuis la fin du XVIIIe siècle, là il y a eu des combats individuels, collectifs, d'associations ou d'avocates, ou etc., de femmes, et ça a changé la face du monde. Et là je crois qu'il faut le dire avec un peu de grandiloquence, ça a changé la face du monde, parce que qui aurait pu imaginer au XIXe siècle qu'un jour... des femmes seraient élues à la présidence d'un pays, ou que des femmes deviendraient PDG, que des femmes pourraient diriger des armées. Mais si on l'avait dit au XIXe siècle, les gens auraient ricané. Mais aujourd'hui, c'est le quotidien pourtant. Aujourd'hui, vous avez des femmes premiers ministres dans le monde entier. Il n'y a plus, en France en tout cas, il n'y a plus aucun métier militaire qui est fermé aux femmes, mais ça c'est davantage qu'une évolution, c'est une révolution. Et ça, c'est pas les hommes qui l'ont fait, c'est les femmes qui se sont battues pour ça et qui l'ont obtenu de haute lutte.
Au Maroc, nous avons perdu une figure emblématique, Madame Aïcha Chna, qui est une fervente défenseuse des droits des mamans célibataires, des mères célibataires. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé. Pourquoi la culture patriarcale refuse de rendre justice à ces femmes-là?
Je pense que c'est parce que une femme seule, c'est-à-dire qui n'est pas sous autorité de son père ou de son mari, cette femme-là apparaît rapidement comme une femme dégradée, perdue, méprisable aux yeux de la culture patriarcale. Donc c'est ainsi qu'une femme qui va se balader seule dans la rue, soit on peut la draguer, soit on peut l'embêter, soit on peut la harceler parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'homme, autour. Donc voilà, ça c'est dans cette conception patriarcale. Et puis de manière plus statutaire, une femme seule parce qu'elle est veuve ou parce qu'elle a choisi de rester célibataire ou parce que c'est une femme qui a été quittée par le père de ses enfants. Bon bref, il y a plusieurs cas de figure. Eh bien, il y a une espèce de suspicion qui pèse sur elle. Et moi, il se trouve que je suis sensible à cette réalité parce que mon premier travail d'historien porte sur les enfants abandonnés. Et au XIXe siècle, en France, comme dans d'autres pays, il y avait beaucoup de femmes qui devaient abandonner leurs enfants parce qu'elles avaient une vie qui était devenue impossible, parce qu'elles étaient mères célibataires, parce qu'elles étaient seules, parce qu'elles étaient pauvres. Donc en fait, c'est pas ces femmes qui étaient dénaturées parce qu'elles abandonnaient leur enfant. C'était des femmes victimes d'une misogynie d'État et d'un ordre patriarcal qui étaient obligées de confier leur enfant à la collectivité, et c'était bien entendu un crève-cœur. Donc moi, j'ai effectivement essayé de réfléchir à ces questions-là, et ça, on est dans l'histoire très longue, parce que vous voyez bien que c'est quelque chose... Vous voyez, la question de la bâtardise avec tout le mépris qui pèse aussi bien sur les enfants nés illégitimes que sur les femmes seules ou célibataires, c'est quelque chose qui remonte à, on pourrait remonter les millénaires avec ça.
Yvan Jablanka, comment vous imaginez les hommes du futur ?
Alors, je vais faire un petit pas de côté et je vais vous définir ce que c'est que pour moi un homme juste. On va dire que c'est ça, le futur de la masculinité. Alors, qu'est-ce qu'un homme juste ? Bon, je précise d'abord que moi-même, je n'ai pas la prétention d'être un homme juste. Quand je parle des hommes justes, c'est une utopie et une espèce de conception théorique sur laquelle on peut, et même je crois, on doit se caler. Alors, je définirais les hommes justes selon trois critères. D'abord, la capacité à se remettre en cause, avec le sentiment qu'on vit dans des rapports de pouvoir qui, globalement, sont favorables aux hommes. Et donc, la capacité à se remettre en cause, c'est l'idée d'être conscient de ses avantages et peut-être même de ses privilèges. Le deuxième critère pour définir l'homme juste, c'est la volonté de vivre l'égalité. Et je ne dis pas simplement défendre l'égalité, parce que l'égalité, c'est comme la paix, tout le monde est pour. Mais quand ensuite, concrètement, il faut mettre en œuvre la paix ou l'égalité, alors là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, vivre l'égalité, ça veut dire vouloir, dans sa vie quotidienne, dans sa famille, dans son couple, dans la rue, dans les transports, dans les assemblées, dans les entreprises, bref, dans toutes les sphères sociales, vouloir véritablement vivre l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire concrètement partager le pouvoir, partager les responsabilités, partager le temps de parole, partager l'accès au sacré et l'accès à Dieu, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les monothéismes depuis qu'ils existent. Et ça, je crois que cette volonté de vivre l'égalité ouvre à ce que j'appelle la justice de genre. Et enfin, le troisième critère, c'est la nécessité, je crois, de prendre parti. Prendre parti, considérer que c'est pas parce qu'on est un homme que le féminisme et MeToo sont sans intérêt. Donc prendre parti pour les droits des femmes, pour les droits de tous les hommes, pour les combats en faveur des droits humains, et prendre parti aussi contre cette connivence masculine que j'évoquais tout à l'heure, en faveur des nouvelles masculinités. Donc là, on est plutôt dans l'invention de nouvelles solidarités. Et là, je crois que ça montre bien que le masculin, ce n'est pas une question privée, c'est une question publique. Et donc, moi, je suis favorable, et moi, je suis désireux de complexifier et de politiser le masculin.
Qui sont les hommes qui vous ont inspiré dans votre vie ?
J'adore cette question. C'est une question magnifique parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des modèles. Alors, quand j'étais petit, j'avais des modèles. Par exemple, Michel Platini, c'était vraiment l'idole de l'époque en foot. Mais on ne peut pas dire que ce soit une masculinité spécialement positive. Quand je réfléchis à votre question sous l'angle de ces masculinités positives, je dirais que c'est essentiellement des artistes et peut-être même des chanteurs qui m'ont fait réfléchir. Effectivement, je pense qu'il y a dans la musique ou dans la chanson populaire des hommes qui ont très tôt réfléchi à ces questions de genre et ce qu'on n'appelait pas à l'époque la fluidité de genre. Par exemple, David Bowie, c'est quand même quelqu'un qui, dans les années 1970, n'avait pas peur de se présenter comme une créature androgyne maquillée. Bon, il fallait un certain courage hein, quand même. Hein. Dans les années 80, Jean-Jacques Goldman, qui était vraiment l'idole de ma génération, c'est un homme qui se présentait comme quelqu'un de doux, de tendre, qui tournait en dérision le machisme. Et ça, je crois que c'est quelqu'un qui m'a fait réfléchir parce que voilà, sa chanson, il y a une chanson qui est une grande chanson de lui qui s'appelle Doux, dans laquelle il revendique la douceur dans les relations humaines, sociales, mais aussi en amour, comme quelque chose de très positif. Et puis, plus récemment, quelqu'un comme Stromae, je trouve que c'est un chanteur qui fait aussi réfléchir aux nouveaux modèles de masculinité, peut-être même aussi de féminité, et cela dans les jeunes générations, avec un immense talent.
Le podcast est écouté majoritairement par des jeunes. Je sais que vous travaillez beaucoup sur la jeunesse. J'aimerais vous demander un petit message aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes hommes, aux jeunes en général, aux jeunes qui souffrent de leur masculinité ou même qui revendiquent leur masculinité. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, je vais leur dire d'abord, soyez vous-même. Ne renoncez à rien. Soyez vous-même et restez vous-même. et je vais dire aussi, c'est vous qui allez le changer le monde. Peut-être que ma génération, elle a essayé, je ne sais pas si elle a réussi, mais vous, vous allez changer le monde.
Yvon Zablanca, merci beaucoup.
Merci.
Merci, Rojoula.